Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes tous assemblés ici pour prier pour ce roi défunt, Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793. Cet assassinat, pour l'appeler par son nom, mérite pour nous réflexion, méditation. On dit bien des messes pour les chefs d'État défunts. Au bout d'un moment, on n'en parle guère. Mais là, ce n'est pas n'importe quel chef d'État. C'est un roi incarnant une royauté de 1300 ans, attaché comme ses ancêtres le lui avait dit, comme l'Église le lui avait conféré par le sacre à Reims, de respecter les droits de Dieu, qui est le maître du monde, le maître des nations, le maître des cités, le maître et créateur de toutes choses, visibles et invisibles, de tout homme par conséquent. En plus, il fut le roi d'une nation qui est fille aînée de l'Église. C'est le premier pays au monde qui a eu son chef d'État baptisé catholique à travers le monde, pays qui existe toujours. Pays qui a semé la civilisation tant qu'il était chrétien, par ses cathédrales, ses abbayes, ses universités, ses missionnaires. La France fut toujours le pays en tête du nombre des missionnaires qui sont partis à travers le monde entier, Asie, Afrique, Amérique, porter la véritable civilisation. Donc, les révolutionnaires, pour les appeler par leur nom, qui, comme nous le disent les papes, avaient comme but principal de détruire cette doctrine fondamentale que les nations dépendent de Dieu comme les individus, et que le roi, le chef d'État, est là pour faire respecter ses droits de Dieu autant qu'il se peut faire sur cette terre avec ces hommes qui ont le péché originel. Or, en guillotinant Louis XVI, c'est tous les droits de Dieu qui étaient guillotinés pour la France officiellement, pour mettre à la place les droits de l'homme. Alors, mes bien chers frères, comment nous voyons la sainteté, on peut dire le mot, en attendant que l'Église engage sa cause, de ce roi débonnaire, j'allais dire qui n'a jamais fait de mal à personne. Comment, en le guillotinant, on guillotinait tout un principe, toute une chrétienté. Et quand on sait que ces principes révolutionnaires des droits de l'homme vont partir dans le monde entier, quel désastre! Comment nous voyons que Louis XVI était un saint, entre guillemets, tant qu'il n'est pas canonisé, en lisant son testament. C'est le moment, vous le connaissez peut-être, la plupart d'entre vous, mais c'est le moment de le méditer, pour bien comprendre que même roi, on a de graves responsabilités, et que nous serons jugés plus sévèrement le roi devant Dieu, à cause de ses responsabilités sociales, et on peut dire internationales. Testament du roi Louis XVI. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI, 16e du nom roi de France, étant depuis 4 mois renfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 courant avec ma famille. De plus, impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante. N'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père pour nous autres hommes, si indignes que nous en fussions, mais le premier. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur aie donné aucun sujet. Et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui par un faux zèle ou par un zèle malentendu m'ont fait beaucoup de mal. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession ininterrompue de saints Pierre, auxquels Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger et ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous enseigne. Je prie Dieu de me pardonner de tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence. Ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique, je prie Dieu de recevoir la confession que je lui ai faite et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique, à laquelle je suis toujours sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme intention où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique, pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je recommande à Dieu ma femme et mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes. de ne leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci s'ils sont condamnés à les éprouver que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leur regard vers la seule gloire solide de l'éternité. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes avancés contre moi. Fait en double à la tour du temple le 25 décembre 1792. Par la grâce de Dieu, quelques semaines avant sa mort, il a pu avoir un confesseur, un prêtre irlandais, qui avait fait ses études à Toulouse, chez les pères jésuites, et qui comprenait le drame. Il a pu l'accompagner jusqu'à l'échafaud. Et contrairement à ce qui était prévu, on voulait faire battre les tambours pour que le roi ne dise rien à toute la foule assemblée, il a pu. Dieu a voulu que malgré les tambours qui se taisaient, il a pu parler. Et il a dit cette dernière phrase, tournée vers tous ces soldats et de peuple, « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Et toi, peuple infortuné, il allait continuer, mais un homme à cheval et en uniforme national fondant tout à coup, à l'épée à la main vers les cris féroces, les obligea à rouler le tambour pour qu'on n'entende pas la suite. Et quand le roi a été décapité, le plus morne silence régna d'abord. Bientôt quelques cris, « Vive la République !» se firent entendre. Peu à peu, les voix se multiplièrent et dans moins de 10 minutes, ce cri mille fois répété devint le cri de la multitude et tous les chapeaux furent en l'air. Alors, mes bien chers frères, tout ça, nous devons évidemment en pleurer. Mais il ne s'agit pas de gémir, il s'agit de réagir. Et comment réagir? Comment notre France, fille de l'Église, qui n'a plus de chef selon Dieu, comment peut-elle renaître à la foi et remplir de nouveau son rôle missionnaire à travers le monde? Dieu ne nous a pas abandonnés. Je peux vous dire, et vous le savez la plupart d'entre vous, par quelques nouvelles, que c'est en France qu'il y a le plus d'espace vert de la tradition. Le plus d'endroits où on dit la messe traditionnelle, le plus de prêtres qui ont voulu garder la foi. Dans les séminaires de la tradition, il reste toujours la majorité de Français. Donc Dieu est toujours là, prêt à nous entendre. Alors il faut nous convertir profondément. Il faut des vocations. Il faut que chacun de nous s'efforce d'être un meilleur chrétien. Le jour où il y aura de nouveau des saints en France, des grandes familles chrétiennes, des vocations saintes, tout repartira et de plus belle. Et voilà pourquoi, bien chers frères, vous en doutiez, un des grands moyens pour nous de retrouver cette foi profonde, cette foi missionnaire, c'est de faire ces exercices spirituels de Saint Ignace que l'on donne dans la maison, ici, mais pas exclusivement ici. Il y a Notre-Dame du Pointet, près de Vichy, il y a Courtalin, près de Paris, où on donne ces exercices, et que de conversion, que de retour à la tradition, que de vocation. Voilà un des grands moyens à notre portée de faire avancer la cause que nous voulons défendre, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne voulais pas être trop long, mes bien chers frères, mais comme je suis missionnaire, j'ai au cœur quelque chose dont je voudrais vous faire part et dont je vous ai déjà fait part ici. Mais c'est le moment de vous le rappeler. Il y a des nations qui attendent ça de nous. Je pense aux anciennes colonies. Je pense aux ces pays qui sont devenus indépendants et à qui on a obligé pratiquement à avoir des constitutions laïques avec des principes démocratiques. Exactement ce qu'il ne fallait pas. Surtout en Afrique où on a le sens de la hiérarchie du vieux qui est honoré. Et mais cette mentalité démocratique a tout mis par terre et met l'Afrique dans le chaos. Alors c'est l'Église, c'est la France chrétienne qui devrait redonner à ces nations qui attendent cela. Et non pas des secours économiques. C'est le sous-développement moral qui est beaucoup plus inquiétant que le sous-développement économique. C'est marqué dans une des encycliques du pape, c'est bien certain. Alors bien chers frères, je vous prie aujourd'hui de penser à cela pendant que nous prierons. Et on m'a demandé s'il fallait faire la quête, j'ai dit oui. Pourquoi ? Pour dire des messes pour la France. La quête qui sera faite pour qu'en France nous retrouvions cette foi qui fera de nous ce pays que Dieu a prédestiné à être un élément civilisateur des autres nations en redonnant le bon exemple. Donc des messes sont dites avec la quête pour la France, pour le renouvellement de la France chrétienne. Voilà mes bien chers frères, ce que j'avais à vous évoquer ce soir. Je pense que vous prendrez quelques résolutions. Je rappelle simplement en pratique qu'il y a une retraite pour les hommes ici du 15 au 20 février. Du 15 au 20 février, tâchons de nous trouver le temps, tâchons de nous, d'avoir ce courage. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de c'est le courage. Ayons son courage de savoir prendre sur nous, de nous séparer des nôtres pendant au moins 5 jours pour faire le point devant Dieu, nous convertir profondément, nous sanctifier. L'Église a besoin de cette conversion, la France a besoin de votre conversion. Et demandons ça spécialement par la Sainte Vierge. Vous savez qu'elle est reine de France. Vous savez que Louis XIII a consacré, le tableau est célèbre ici à Montauban. C'est un honneur pour nous, Montauban, d'avoir ce célèbre tableau de la consécration par Louis XIII de la France à la Sainte Vierge, Notre-Dame de l'Assomption, le 15 août. Le 15 août. Donc c'est la Sainte Vierge, notre reine, nous devons la prier. Ainsi soit-il. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Eh bien, chers frères, comme l'Évangile le montre aujourd'hui, il s'agit pour la plupart des exégètes et des pères de l'Église de l'institution du sacrement de mariage. Ce qui ne veut pas dire que le mariage est du Nouveau Testament. Au contraire, cette sainte institution du mariage est depuis la création. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront plus qu'une seule chair. Et ensuite, croissez et multipliez-vous. Donc nous avons déjà dans des paroles divines l'excellence, la nature du mariage, cellule de base de la société. Comment se fait-il que notre Seigneur a rétabli la sainteté du mariage ? Parce que chez les Juifs, la situation s'était dégradée pour deux causes. La première, la facilité du divorce, et ensuite la polygamie, qui s'était introduit. Malheureusement, notre Seigneur rétablit, en disant bien l'origine, vous l'avez entendu, par vos pères, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Saint Paul précisera que l'union entre l'homme et la femme est semblable à celui de Christ et de son Église. C'est dire la beauté, la sainteté du mariage chrétien. C'est l'occasion aujourd'hui d'en parler avec plus de fermeté et de précision, mes bien chers frères, parce que le mariage est attaqué. Attaqué par quoi ? Par des lois favorisant le divorce. Il faut le bien dire, toutes ces lois viennent de gens qui nous gouvernent et qui ne sont pas catholiques. N'ayons pas peur de le dire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, enfin à Paris en tout cas, et dans certains chefs-lieux, nous avons 5 divorces sur 10 mariages. Et quelles sont les victimes ? Les victimes du divorce, ce sont les enfants, les premières victimes. Je voudrais quand même rappeler, parce que j'espère que beaucoup d'entre vous, surtout les chefs de famille, tâcheront de faire en sorte que la situation ne se dégrade pas plus par des lois, par des décrets, même par une jurisprudence. Quand il y a des divorces, naquet, au siècle dernier, c'est lui qui a commencé à faciliter le divorce. Ensuite, Pierre Simon, la contraception, n'avons pas le droit d'accepter que ceux qui ne sont pas catholiques nous fassent des lois contre nos familles, nos foyers, nos enfants, contre la France. Weil, Neuwirth, des lois contre la famille, qui fait que pratiquement la situation se dégrade. Alors, mes bien chers frères, nous devons savoir nous battre contre tous ceux qui essayent de détruire notre pays, notre foi catholique, parce qu'ils savent, la subversion sait que si la famille chrétienne n'existe plus, si elle se désagrège, c'est toute la foi qui se désagrège. Parce que quand un enfant n'a plus des parents pieux, qui donnent leur bon exemple, qui s'aiment entre eux, qui sont bien unis, ils ne peuvent pas grandir et croître dans une atmosphère saine qui fasse d'eux des saints. Ah oui, bien chers frères, il est bon aujourd'hui de revoir ensemble la sainteté du mariage et les devoirs des époux. Le premier devoir des époux, c'est de s'aimer tendrement, charitablement. J'ai entendu des parents me dire un jour ceci, et c'est un bon exemple. Je prends cet exemple. Ils m'ont dit, mon père, vous connaissez notre fille, elle va se marier avec un tel. Pour l'instant, mon père, ils s'aiment beaucoup. Ils ont beaucoup l'amour. Ils sont fiancés, ils vont se marier. Mon père, faites quelque chose pour qu'ils comprennent bien. Maintenant, il y a beaucoup d'amour entre eux. Mais mon père, il faut qu'il y ait la charité. Très bonne nuance. Pourtant, ce n'est pas le même mot, mais c'est synonyme. L'amour humain doit avoir comme ciment cet amour de Dieu, cet amour ardent pour Dieu, créateur et maître de tout. Et s'il y a cette fidélité envers Dieu, il y a la fidélité, l'amour envers l'un et l'autre. Donc la charité est là, toujours, quand il n'y aura plus l'attrait physique, l'attrait sentimental. Il y a cette charité, cet amour de condescendance, et qui fait qu'on supporte les défauts des uns des autres, qu'à la prière du soir, on répare les petits malentendus qu'il peut y avoir eu. Il y a Dieu qui est le ciment, cette charité de l'amour conjugal. Voilà pourquoi le mariage se fait à la messe de mariage. La messe est un sacrifice.
Il y a les liens du mariage avec ses exigences. Donc le premier point, c'est l'amour mutuel, tendre l'un pour l'autre. C'est quand même dommage de voir des mariés, des gens mariés, tel père de famille, tel homme, qui a des sourires pour toutes les femmes, sauf pour la leur. Inadmissible. Alors bien, chers frères, voilà ce qu'il faut dès aujourd'hui reprendre. Et aujourd'hui, notre épouse, aimons-la, prions pour elle, soyons tendres avec elle, comme au jour du mariage. Inversement, l'épouse doit supporter les défauts de son mari, ne jamais le critiquer, surtout pas devant les enfants. Et c'est dans cette atmosphère familiale que l'enfant grandit et se forme chrétiennement, devient lui-même plus tard. Peut-être des vocations qui naissent dans ces familles, si elles sont nombreuses. Et là, mes bien chers frères, je voudrais aussi ajouter les grands, ce qui détruit la famille, le fléau des familles, c'est l'adultère. Tous les péchés, les désordres qu'il peut y avoir même dans le mariage. Tout n'est pas absolument permis dans le mariage. Je pense à l'onanisme, par exemple, particulièrement. Et je voudrais que vous compreniez que tous ceux qui sont mariés ou qui vont se marier, qu'il faut se préparer au mariage en priant, en s'instruisant sur les exigences du mariage chrétien. Et je voudrais, mes bien chers frères, vous faire comprendre ce que nous, en Afrique, on a compris d'emblée. Dans un village, tant qu'on ne faisait pas des mariages chrétiens, le village n'avançait pas. On avait beau prêcher, faire des catéchismes, baptiser même, faire des premières communions, tant qu'il n'y avait pas de mariage chrétien, le village n'avançait pas. Et nos évêques, je me rappelle très bien, quand ils venaient visiter nos missions, ils voyaient les registres de baptême, on ne pouvait en faire 102, 100, 300 baptêmes, ils ne disaient rien, ils ne disaient pas ça marche, mais ils regardaient le registre des mariages. Parce qu'il y avait vraiment un trop grand décalage entre les baptêmes et le nombre des mariages, très peu nombreux, à cause du concubinage, à cause des dots qui n'étaient pas payées, enfin, tout un tas de facteurs qui faisaient qu'on ne se mariait pas facilement devant Dieu. Alors nos évêques disaient, il n'y a que 5 ou 6 mariages dans votre mission, elle n'avance pas, vous ne travaillez pas. Parce que effectivement, dans le foyer chrétien, tout de suite les choses changent. Certaines coutumes païennes étaient abandonnées. Et il y avait cet amour réciproque, on mangeait ensemble. Il y avait la table commune, le toit commun, et surtout l'éducation des enfants commune. Alors bien, chers frères, comprenons que dans une société où il n'y a plus de mariage vraiment chrétien, elle se dégrade, la société se dissout lentement. C'est même comme ça vrai chez les païens. L'Empire romain s'est dégradé pourtant parce que à cause de la famille qui s'était dégradée, la situation familiale, matrimoniale particulièrement. Le support mutuel, la prière. Alors vous me direz, mon père, mais aujourd'hui, tout ce que vous dites, ce sont des paroles. La télévision nous dit le contraire. Les lois nous disent le contraire, qu'on peut facilement en divorcer. Les affiches, la radio, tout l'environnement, mon père, est contre ce que vous dites. Alors comment faire? Eh bien, il faut contre-attaquer. Un chrétien n'est pas celui qui se plaint et qui gémit sans agir. Je vous conseille, mes bien chers frères, de faire les exercices spirituels de Saint Ignace. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle. Parce que je dis, après les papes, qu'ils sont devenus indispensables aujourd'hui. Autrefois, on disait de faire des retraites, c'était nécessaire. Aujourd'hui, ces retraites sont devenues indispensables. À cause de l'environnement, ils ont besoin de ce temps fort où devant Dieu, nous voyons quel est son amour, son plan d'amour sur l'humanité, sur la beauté, la sainteté du mariage. Nous donnons aux Pointet, à Caussade, à Courtin, des retraites. Je peux dire, après 38 ans d'expérience sur cette question, aussi bien en Afrique qu'en Europe, que ceux qui font ces exercices, les foyers qui les font, au retour de la retraite, ils s'aiment plus et mieux, en qualité et en quantité. Ils ont compris la beauté du mariage, cette institution divine. Et alors, combien de fois j'ai vu des situations qui, soi-disant, sont insolubles. C'est faux. C'est Luther qui avait dit qu'il y a un véritable déterminisme au péché. C'est faux. On n'a aucune tentation, aucune situation qui est au-dessus de nos forces. J'ai vu en Afrique des gens qui étaient polygames, 4 femmes, 3 femmes. Ils font la retraite et ils en laissent 3 pour marier légitimement une. Je faisais le mariage, je sais de quoi je parle. J'ai même, je dois le dire, à force de faire des... parce qu'il faut faire des divorces coutumiers, qu'une fois j'ai été menacé d'être empoisonné par certaines femmes. Parce que trop souvent, elles se trouvaient seules ou elles cherchaient un mari. Mais je n'avais pas peur. D'abord, c'est marqué dans l'Évangile, vous prendre des poisons, ça ne vous tuera pas. Donc, c'est dans l'Évangile, dans les actes. Alors, mes bien chers frères, il faut que nous comprenions que ces exercices sont un des grands moyens de retrouver la beauté de notre mariage. Après des séries de retraites que j'ai données en Côte d'Ivoire avec d'autres confrères, c'est Monseigneur Yago qui venait d'ailleurs les faire, moi j'ai vu ça, l'archidiacre cardinal Yago qui venait dans notre paroisse, et nous faisions 25-30 mariages ensemble. Parce qu'il y avait des concubinaires, des polygames qui disaient « Je veux me marier devant Dieu maintenant ». Et à ce moment, il était évêque, Monseigneur Yago venait faire les mariages, 32 mariages en même temps, à la file. Monseigneur disait, je n'ai jamais vu cette merveille grâce aux exercices spirituels de Saint Ignace. Des gens qui croyaient qu'on ne s'en sortira jamais, c'est pas vrai. J'ai vu des merveilles en France également. Je cite simplement 2 cas, je ne veux pas être trop long, c'est pas une conférence, c'est une homélie. J'ai vu des gens divorcés, remariés, et qui font les exercices, et qui reviennent avec l'époux légitime. Parce que devant Dieu, les raisons humaines, elles ne pèsent plus. Il faut savoir, il y a des arrachements qu'il faut savoir faire. C'est pas pour rien que dans l'Évangile, il y a marqué, si ton œil te scandalise, arrache-le, et jette-le loin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles? Elles sont de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des liens, de mauvais liens, qu'il faut savoir couper. Et se remettre avec sa femme légitime. Et sans les exercices, c'est quasi impossible. J'ai vu des cas comme celui-ci, telle femme qui est en train de divorcer. Elle fait toutes les démarches à Paris pour divorcer. Et aujourd'hui, comme on fait des prix, n'est-ce pas, et du rabais dans l'église post-conciliaire, il faut bien dire, n'est-ce pas ? À l'évêché de Paris, on dit « Très bien, madame, tout est facile, votre cas n'est pas compliqué, dans quelques semaines c'est réglé, vous serez libre, plus de mariage. » Elle fait les exercices de Saint Ignace et elle prend la décision de revenir avec son mari, qui était en prison, c'est vrai, c'est un cas compliqué, mais elle recherche son mari, qui est à l'étranger même. Et toute joyeuse, pouvoir se confesser, communier, mais grâce aux exercices de Saint Ignace. Alors, chose extraordinaire, c'est que, vraiment, ce qui montre la situation actuelle de l'Église post-conciliaire, n'est-ce pas, elle va à l'évêché de Paris pour expliquer qu'elle veut rester mariée, et elle se fait insulter. Comment? Mais c'est tellement clair. Elle dit non, je suis mariée, et elle cite l'Évangile de Saint Matthieu à ces messieurs de l'évêché de Paris. Mes frères, je ne vais pas être trop long, mais je voudrais qu'aujourd'hui, à l'occasion de cet évangile, qui est pour beaucoup de théologiens l'institution du sacrement des mariages, cette beauté du mariage, nous le comprenions, et aujourd'hui même, que nous ayons envers notre épouse et épouse envers l'épouse, cette affection tendre, forte, que Dieu veut que nous ayons, c'est les enfants qui en profitent. On a le cœur beaucoup plus en paix. Si on vit dans la désunion, comment peut-on avoir la paix? C'est pas possible. Il faut savoir se pardonner. Et ça, il faut être bon catholique pour ça. Il faut faire ces exercices. Alors à la sortie de la messe, mes bien chers frères, vous aurez ces feuilles de retraite avec le bulletin paroissial, vous aurez ces feuilles de retraite qu'on vous distribuera. Choisissez vos dates. Ne dites pas, j'ai pas le temps. On a le temps et l'argent pour ce qu'on veut. Je l'ai vu 100 fois, en Afrique comme en Europe. On a le temps et l'argent pour ce qu'on veut. Il suffit de vouloir. Alors, et demandons à Dieu d'avoir le courage d'y participer. Et ainsi, non seulement nous aurons retrouvé une foi plus forte, mais un amour de Dieu plus fort et un sens missionnaire. Parce que beaucoup rentrent dans ces exercices aujourd'hui avec cette maladie moderne, la déprime. J'en ai vu rentrer des messieurs, des dames, des jeunes filles dans la déprime, quelquefois même suicidaires. Mais quand on est mis devant Dieu, qu'on n'est plus troublé par des télévisions, par des radios, par des téléphones, par des nouvelles, par des journaux, quand on est bien devant Dieu, seul, on retrouve la paix intérieure. Et elle passe par la grâce sanctifiante. Quand on a la grâce sanctifiante, on a la paix en nous, la joie. Voilà ce qu'il faut que nous retrouvions, déjà avec la prière, la sainte messe, la communion, mais avec ces exercices de saint Ignace dont on vous parle. Ce n'est pas pour rien que le pape Pie XI dit, ces exercices de saint Ignace, c'est le code dont tout bon soldat du Christ doit se servir. Il ne dit pas peut se servir, il dit doit se servir. Donc ayons ce courage de les faire, demandons à la Sainte Vierge son intervention. Vous avez remarqué dans cet évangile, je ne veux pas être trop long, mais c'est très intéressant, vous voyez. La Sainte Vierge intervient. C'est la seule parole qu'on a à la Sainte Vierge pour faire intervenir le miracle. Elle en parle à son divin Fils. Ça s'appelle la prière d'exposition, c'est très beau. Ils n'ont plus de vin. Elle ne dit pas, faites un miracle, non. La prière d'exposition. Ils n'ont plus de vin. Ça veut dire que la situation est grave. Ça va. Il y aura mauvaise réputation de tous ceux qui s'occupent de ce mariage. Ils n'ont plus de vin. Et la Sainte Vierge qui dit, c'est très beau ça, qui dit à tous ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Ça paraît insensé de mettre de l'eau dans des jarres. Ce n'est pas du vin de l'eau. Heureusement qu'ils ont bien obéi, qu'ils ont rempli les jarres usquiat sumum jusqu'en haut. S'ils n'avaient pas obéi, s'ils avaient mis que le fond, on n'aurait pas eu tout ce vin. C'est une merveille cet évangile, voyons-le, à l'occasion d'un mariage et du mariage. Alors demandons à la Sainte Vierge d'intervenir pour nous donner le courage de faire ces exercices de saint Ignace. C'est elle qui les a donnés à saint Ignace, le mien cher frère, au moment du protestantisme. C'est typique, ce n'est pas du hasard ça. 1521, nous en savons quelque chose ici en Alsace, quand Luther est venu à Strasbourg, placardé à Saint-Pierre-le-Vieux, ma paroisse de naissance à Strasbourg, Luther, 1521, la même année où Luther est excommunié, la même année, Saint-Ignace recevait de la Sainte Vierge les exercices à Morez. Vous voyez, un moine se révolte contre l'Église et un laïc est pris par Dieu pour donner ses exercices. Et il les a reçus de la Sainte Vierge, 1521, ce n'est pas pour rien, la même année. Faut croire aux dates. Alors, demandons à la Sainte Vierge le courage de faire ces exercices. Nous y trouverons un grand bienfait. Nous aurons l'âme missionnaire. Notre foyer reprendra cette affection de l'origine. Et Dieu bénisse cela, évidemment. Voilà la grande grâce que je vous souhaite, mes bien chers frères, pour cet évangile des noces de Cana. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes. Il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. et en reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Voici les graves paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a adressées le 16 juin 1675 à Sainte Marguerite Marie dans le monastère de la Visitation à Paray-le-Monial. L'Église, dans les décennies qui ont suivi, a déclaré que ces apparitions et ces messages étaient surnaturels. Et elle a attribué des indulgences à cette dévotion et a encouragé la communion réparatrice du premier vendredi du mois. Mais cette dévotion ne remonte pas, mes bien chers frères, au XVIIe siècle. Elle est bien antérieure. Elle a sa source sur la croix même du divin Rédempteur, il y a 2000 ans, le vendredi saint à 3 heures de l'après-midi, lorsque le corps de notre Seigneur a été transpercé, son corps ouvert et le Sacré-Cœur transpercé. Est-ce que Dieu pouvait davantage, mes bien chers frères, montrer son amour pour nous? Pouvait-il aller plus loin pour témoigner de cet amour miséricordieux infini? Voilà pourquoi nous devons mettre dans nos vies cette dévotion qui, comme nous le disent les papes, n'est pas une dévotion en plus des autres. C'est vraiment une dévotion qui est la plus estimable, comme des Léon XIII, parce qu'elle est le symbole, elle est le modèle de tout cet amour de Dieu qui est symbolisé dans ce cœur divin, lui-même se répandant sur toute la terre. Léon XIII dit même que c'est parmi toutes les dévotions la plus sublime, que nous ne devons pas négliger. Elle est d'autant plus utile, mes frères, aujourd'hui, que nous sommes, notre cœur humain est secoué plus qu'à d'autres temps peut-être, par toutes ces passions qu'on nous pousse à commettre, tous ces péchés. Le cœur aujourd'hui de l'homme est plutôt un cœur qui veut s'abstraire de la loi d'amour de Dieu. L'homme veut être son propre Dieu. Le cœur humain veut pécher, le cœur humain ne veut pas de loi, parce que la loi de Dieu contraint sa volonté, et il veut être libre, le maître mot aujourd'hui, la liberté. Or, mes bien chers frères, que peut-il y avoir comme liberté en dehors de cette liberté que Dieu nous a donnée? Et nos cœurs doivent être tendus vers ce bien, puisque Dieu nous a donné cette liberté pour le bien, pour grandir, pour mériter. Mais, mes bien chers frères, le Sacré-Cœur s'est spécialement penché sur la France. Oui, quand dans son encyclique, le pape Pie XII, Orietis Aqua, cette magnifique encyclique, le pape nous parle de cette dévotion et il énumère les saints qui ont travaillé par leurs prières, leurs contemplations, leurs écrits à développer ce culte au Sacré-Cœur. Et il parle de Saint Bonaventure, de Sainte Catherine de Sienne, et dans son énumération, il cite à la fin que des saints français, Saint Jean-Eudes, qui nous a valu la messe du Sacré-Cœur, le premier office est de Saint Jean-Eudes sur le Sacré-Cœur, Saint François de Sales. Et il achève son énumération de tous ceux qui ont travaillé au développement de ce culte du Sacré-Cœur, il achève son énumération par la citation de Sainte Marguerite Marie Alacoque et de son directeur spirituel, le bienheureux Claude de la Colombière. Et il dit, parmi tous ceux qui ont travaillé à ce culte, il faut mettre a une place spéciale, cette sainte, qui par sa sainteté, son zèle, ses pénitences, a répandu dans le monde entier cette dévotion au divin cœur de Jésus, dévotion qu'ont admiré tous les chrétiens, dont dévotion qui ont été encouragées par tous les papes. Alors, eh bien, chers frères, noblesse oblige. Catholiques français, nous avons le devoir de nous tourner davantage vers ce divin cœur. Et là, mes bien chers frères, il faut que nous fassions un petit peu d'histoire. L'histoire de France, particulièrement, est une grande éducatrice. Je vous prie de fixer votre pensée, votre cœur, sur la signification particulière des 489. Trois sont derrière nous, un est devant nous. 1689, notre Seigneur Jésus-Christ demande au roi de France qu'il soit consacre lui-même, qu'il se consacre et tout le royaume au divin cœur, et qu'en retour il aura 1000 bénédictions pour lui-même, pour la France. Hélas, cette consécration n'a pas été faite pour des causes imparfaitement connues jusqu'à ce jour. 1789, un siècle après, c'est la révolution dite française, mais en réalité révolution maçonnique. Je n'ai pas besoin, bien cher frère, d'évoquer toutes les victimes, tous les martyrs, toutes les profanations, tous les sacrilèges de cette révolution diabolique qui veut écarter Dieu. Des martyrs, vous en avez ici, dans la chapelle latérale, tous ceux qui sont morts ici même. Martyrs, tous ces religieux massacrés pour leur foi. L'homme de 89 ne veut plus Dieu. C'est lui-même qui est devenu son propre Dieu, sa liberté, plus de loi. 1889, la France répare, et particulièrement Paris, puisque c'est l'achèvement de cette belle basilique au Sacré-Cœur de Montmartre. Il est évident que la France s'est cotisée, même les plus pauvres ont voulu aider à l'érection de cette basilique, qui est un monument de réparation et en même temps un présage pour l'avenir. Tous les épiscopats de l'époque, tous les chrétiens, ont eu ça dans leur intention, en la construisant. 1989, dans 3 ans. Ce 89 est devant nous. Déjà, les hommes politiques le préparent, mais pas à la façon catholique. Eh bien, chers frères, nous autres, il faut nous y préparer par, comme a dit un écrivain contemporain, par un supplément d'âme. Il ne faut pas avoir peur de devenir des saints. Si les suppôts de Satan se déchaînent, nous autres, nous devons être plus fervents, plus des âmes aimantes de ce Sacré-Cœur, qui lui-même nous sauvera. Alors préparons-nous, et comment? Eh bien, mes bien chers frères, par une conclusion pratique à laquelle plusieurs d'entre vous s'attendaient. Oui, mais avant de vous en parler de cette conclusion pratique, mes bien chers frères, je vais me permettre une question théologique. Les apôtres, est-ce qu'ils ont compris, au moment de l'ascension, cet amour miséricordieux de leur divin maître? Non. Malgré les 3 ans de grand séminaire qu'ils avaient fait avec notre Seigneur Jésus-Christ, ils avaient encore cette notion juive du Messie, un Messie politique, qui allait rétablir le royaume d'Israël. Et c'est pourquoi cette question, dans les jours qui ont précédé l'ascension, « Seigneur, est-ce maintenant que vous allez rétablir le royaume d'Israël ?» Il a fallu, mes bien chers frères, les 10 jours de retraite au Cénacle, sans quoi ils ne recevaient pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Pour le comprendre, il leur fallait ces 10 jours dans le silence, loin du tumulte du siècle, des préoccupations du monde, de la fascination des médias. Eh bien, mes bien chers frères, ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Je vous propose de faire les exercices spirituels de Saint-Ignace de 5 jours. N'ayez pas peur, le calendrier des vacances que vous êtes en train de faire doit avoir cela à son programme. Dieu doit être le premier servi en ces temps qui demandent à tout catholique français de l'héroïsme, de la sainteté. Donc vous verrez à la sortie des feuilles qu'on vous distribuera, où il y a ces lieux et ces dates de retraite. Vous en avez à Courtalin, tout près d'ici, vous en avez à Notre-Dame-du-Pointet, vous en avez à Caussal, dans le Tarn-et-Garonne, vous n'avez que l'embarras du choix. Mais ce qui manque, c'est le courage peut-être, mes bien chers frères. N'hésitons pas, en cette solennité du Sacré-Cœur, à moins que nous préférions entendre ces paroles terribles de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, et parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Mes frères, il n'est pas possible que nous, catholiques français, nous ne répondions pas par de l'amour à cet amour infini du Sacré-Cœur de Jésus. Nous allons donc nous réveiller et nous décider aujourd'hui même à faire ces exercices qui sont, comme le disait Pie XI, le code dont tout bon soldat du Christ doit se servir. Eh bien, chers frères, c'est cette grâce que je vous souhaite. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.